Ben oui, on est dans le trafic avec Jean-Marie de Coninck aujourd'hui, mathématicien et fondateur d'Opération Nez Rouge. Lequel des deux titres, M. de Coninck, est le plus révélateur de votre parcours?
Ah, les mathématiciens.
Ah, c'est vrai?
Bien sûr,
oui. Pourtant, fondateur de
Nez Rouge, c'est pas une activité de, sur mon parcours, disons.
Mais qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça se fait que tout à coup, on se lève un matin et on fait « Hey, je vais inventer de quoi pour le monde qui se garde? »
Ben, c'est à cause du sport, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais entraîneur de l'équipe de natation du Rouge et Or de l'Université Laval, dans mes loisirs. Mm-hmm. Puis, je perdais mes meilleurs athlètes, s'en allaient aux États-Unis. À cause des bourses d'athlètes aux États-Unis, les universités ont beaucoup d'argent à donner aux athlètes. Ah. Ils recrutaient les meilleurs athlètes, mes bons athlètes, et d'autres athlètes, bien sûr. Puis là, vous allez dire, ben, c'est bien. Ça, pour une jeune fille ou un jeune gars, c'est surtout des filles, là, qui se fait recruter aux États-Unis, qui a l'aventure, ça. Mais en général, il était complètement dépaysé. Québécois, la Québécoise qui part d'un milieu francophone avec une culture québécoise, qui s'en va aux États-Unis avec d'autres valeurs, disons. Donc, souvent, ils abandonnent la natation, puis souvent, malheureusement, ils abandonnent leurs études aussi. Donc, c'était un fiasco sur toute la ligne.
Okay.
En tout cas, moi, ça me justifiait de dire, il faudrait qu'ils restent chez nous. Puis là, on avait dit, oh, une nageuse, il faut qu'on trouve des façons de ramasser des sous. On a fait toutes sortes d'activités, des lavotos, du recyclage de papier, des parades de mode, des ventes de chocolat, des trucs traditionnels qui rapportaient 500 à 1000 piastres à chaque fois. Là, un moment donné, ben là, j'ai entendu à la radio des statistiques sur l'alcool au volant, puis j'étais en mode recherche de financement.
Okay.
Puis là, il disait que... 3 000 morts au Canada, on parle de 1984, là, de 3 000 morts au Canada dans l'année 1983, dû à l'alcool au volant, je trouve ça énorme. Puis 50% des accidents mortels sur les routes causés par l'alcool au volant. On m'aurait posé la question, j'aurais dit 5 à 10%, mais c'est 50%. Puis surtout, ce qui a fait déclic chez moi, là, presque instantanément, c'est que il y a un barman qui a été interviewé, puis qui disait, à 3 heures du matin, là, les clients ne veulent pas laisser leur voiture dans le banc de neige, ils veulent rentrer avec leur char. Puis là,
vrai.
Ça a fait un déclic, puis c'est là que je suis venu vous rendre Arthur pour demander son aide pour démarrer ce qu'on a appelé l'opération Nez Rouge.
Puis là, c'est rendu dans combien de pays?
C'est beaucoup en Europe, là, au Canada, bien sûr, mais beaucoup en Europe, là, en France, en Belgique. Belgique, ça marche très fort, au Portugal, mais pas aux États-Unis. Pour des raisons d'assurance, là, de confier sa voiture à un inconnu. Là, imaginez les poursuites qu'il pourrait y avoir.
OK, ben oui, c'est vrai.
Ouais, la sécurité.
Au départ, là, l'embryon de ça, la première année, est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que c'était le même principe?
Oui, exactement. C'était 3 bénévoles par accompagnement, dont deux dans la voiture, assis dans la voiture du client.
Deux sous, un agent.
C'est ça. Exactement. Non, c'est ça, c'était la formule de départ. Puis ça a été bien accueilli, surtout par les forces policières qui, eux autres, étaient habitués de traiter le problème de l'alcool au volant avec la répression. Puis c'est correct, là. Tu sais, si tu conduis en état d'ébriété, on va t'enlever ton permis, on va te mettre à l'amende, on va te mettre en prison. Mm-hmm. C'est correct. Mais il y avait une alternative aussi qui était de dire, ben, OK, vous êtes mal pris, vous avez pris un verre, ben, on va aller vous reconduire chez vous, avec votre char. Parce que on sait que vous tenez à votre voiture.
Ouais, ouais, ouais.
Puis c'est ça qui aura, c'est-à-dire, les premières années, là, la première année, on recevait des commandites financières non sollicitées. Essayez de faire ça aujourd'hui, là.
Aïe, aïe, aïe. Comment qui disait, hey, moi, je veux commanditer ça, là.
Ouais, ben, beaucoup des compagnies de voitures, des vendeurs d'automobiles, là, qui nous envoyaient des chèques de 500 $, 250, compagnies d'assurance aussi. Alors ça, c'est dire que c'était apprécié, qu'on ait une autre approche au problème de l'alcool au volant, une approche plus constructive, éducative. Disons.
Est-ce que ça a permis de combler les besoins financiers que vous aviez?
Oui.
L'objectif que vous aviez au départ, ça a fonctionné?
Écoute, la première année, on a fait 25 000 $.
Okay.
Grosso modo, 5 000 en pourboire, puis 20 000 en commandite. Et ça, moi, je m'étais
en 84?
Mon objectif en 84, moi, c'était d'aller chercher 3 000 $, 4 000 $, là,
ben
pas faire ça, là.
Ouais.
Puis c'était au-delà de nos attentes, là.
c'est quoi,
là que ça fait de tâche, là.
C'est quoi les plus mémorables, soit que vous avez vu ou qu'on vous a rapporté, les plus mémorables chauffeurs gazés que vous avez... tu sais, chez les clients, je parle.
Ouais.
Ouais, ouais. Les cas les plus spectaculaires.
Il y en a eu, il y en a moins qu'il y en a qu'il y en avait à l'époque, là, parce que les gens prenaient un verre beaucoup plus, peut-être, je sais pas, c'est une impression, là. Ah, ben, une histoire mémorable, moi, c'est que je me souviens une fois, le recteur de l'Université Laval, c'était Jean-Guy Paquette, de venir conduire. Ça, c'était la deuxième année. Puis là, j'avais dit, moi, il fallait que j'aille sur la route. Je me souviens plus pourquoi il fallait que j'aille sur la route. En tout cas, je ne pouvais pas être là. J'avais dit aux organisateurs locaux, là, hey, donnez-y un transport, là, quelque chose dans un restaurant, ils n'ont pas aller dans une taverne. On ne sait pas. On sait pas, tu sais, les clients, c'est le recteur, tout ça.
Ouais.
Alors là, ils ont donné effectivement une cliente au restaurant Louis Hébert. Est-ce que ça existe encore?
Oui, oui, c'est
sur la Grande Allée.
Le restaurant qui est très populaire. Chez les politiciens, notamment.
Ah oui? OK.
Ah oh, oui.
Alors, puis c'était une cliente. Puis ça, j'entends dire que ils vont chercher. Puis là, je rappelle une demi-heure après, puis j'ai dit, puis comment ça va son transport? Ben là, ça va pas si bien, là, parce que la cliente, elle avait décidé qu'elle allait au Dagobert.
Okay.
Mais elle était vraiment paf, là, tu sais.
Oui.
Puis là, le recteur essayait de la convaincre. T'es pas obligé, rien qu'à la reconduire au Dagobert.
Oui.
Essayait de la convaincre, ben peut-être que ce serait plus raisonnable que vous rentrez à la maison. Puis elle a dit, m'en vais au Dagobert ou ben non, je fais kamikaze. Kamikaze, elle l'a fait. Elle s'est tirée en bas du char.
Ben voyons donc.
Voyons donc.
Remarque, il était arrêté une lumière, mais elle s'est tirée en bas de l'auto. Puis là...
elle aurait pu juste sortir, mais elle...
L'accompagnateur, c'était un ménageur, François Dionne, pas nommé. Il était assis derrière. Quand il a vu ça, évidemment, il a voulu intervenir, sortir de l'auto, pas capable parce que c'était une voiture
qui
était barrée par en dedans à cause des enfants.
Ouais, c'est ça.
Alors, moi, la tête, c'était le fiasco total. Le recteur est pogné avec, en tout cas. Et finalement, j'étais impuissant parce que j'étais pas là. Puis là, une heure ou deux heures après, je rentre à la centrale, puis je vois pas le recteur en train de manger son spaghetti avec les autres bénévoles, puis il repartait sa route. Finalement, ça s'était réglé avec la dame, là.
Okay.
Elle s'était pas blessée, puis... je peux pas vous dire s'ils l'ont reconduit Dagobert. Probablement, j'espère qu'ils l'ont reconduit Dagobert.
Ils l'ont
écouté après ça. C'est ce qu'elle voulait.
Hein?
C'est ce qu'elle voulait faire. En tout cas, ça, c'était...
Vous avez passé votre vie proche des jeunes.
Oui.
C'est encore le cas, je pense.
Oui. Ouais.
C'est quoi la différence entre avoir 20 ans, selon vos yeux, aujourd'hui, puis il y a 25 ans?
Oh, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les préoccupations sont pas les mêmes. Les jeunes sont extrêmement sollicités d'un bord puis de l'autre, avec les médias sociaux, leurs appareils. Ce qui fait qu'ils ont... moi, je le remarque parce que je suis plus prof, là, je suis retraité, là, mais je fais encore beaucoup de conférences dans les écoles, puis j'interviens auprès des jeunes. Là. Avoir l'attention des jeunes, c'est vraiment difficile.
Ah ouais. De façon palpable, la différence, c'est
pas grande. Oui, définitivement. Okay. Oui. Ici au Québec, là, ailleurs, c'est pas nécessairement pareil. Moi, j'étais allé en Afrique là, en 2016, en 2017, pendant 3 semaines pour enseigner mathématiques au Ghana, là, avec 2 autres profs. On était 3 profs, un Allemand puis un Africain du Sud. Hey, j'en avais 45 étudiants dans la salle de cours qui étaient attentifs. Là. Les 2 heures de temps que moi j'intervenais à chaque jour.
Drillé.
Motivé parce que eux autres, ils souhaitaient aller faire un doctorat au Canada, aux États-Unis, en France, un peu partout, puis ils voulaient vraiment apprendre, là. Puis il y avait le privilège, entre guillemets, d'avoir des chercheurs étrangers qui venaient chez eux. Alors, chez nous, ben, tout est donné, là. Ceci dit, faut pas dire across the board, c'est épouvantable, là, parce que tout repose sur la motivation, sur l'éducation, vous dirais, de la personne, là, de l'influence des parents, puis la motivation de l'individu. Celui qui veut réussir dans le système aujourd'hui, il va réussir. Parce qu'on lui offre plein d'opportunités.
Il y a des ressources.
Tout est à sa disponibilité. Déjà, s'il va à la bonne place sur Internet, il va apprendre n'importe quoi.
Ouais.
Mais il y a ceux qui se laissent manipuler par l'information qui vient de l'extérieur. Là, tu t'embarques sur Internet, là, tu t'en sors plus. Là, t'sais. Alors, si tu t'en vas toujours mais aux endroits qui vont pas contribuer à ton éducation, pas contribuer à ton avenir, ben t'es fait à l'os. Là.
Bon, ben justement, je vous amène sur un terrain qui nous a tous intéressés ce midi quand on parlait des sujets qui nous intéressaient.
Okay.
Il y a un article de Marc Cassivi dans la presse aujourd'hui.
Okay.
Où est-ce que il dit qu'il est allé voir Juste pour ados, qui était un spectacle qui se donnait en fin de semaine à Juste pour rire.
Okay.
Puis il était comme un peu abasourdi de voir des filles puis des gars de 10, 12, 13 ans qui étaient en pamoison envers des YouTubers qui, à son sens, ne sont pas des artistes.
Ouais,
c'est-à-dire
qu'ils font foi
d'aucun talent ni rien.
Puis
là, on avait une discussion tous ensemble à savoir est-ce que c'est juste l'évolution normale d'être médiatisé Ou est-ce que on a vraiment, à quelque part, une espèce de croche qui vient de se prendre? Ou est-ce que d'être populaire, ça fait la job avec la télé-réalité, ouais, etc.? Comment vous voyez,
ouais,
ça?
Ben, on est dans,
autres, on a des opinions.
On est dans beaucoup le superficiel, là.
Ouais.
Tu sais, dans le, les hautes sensations, pis ça, le YouTube, pis tout ça. C'est facile de se laisser impressionner par tout ça. À un moment donné, ben, il faut se dire, ouais, mais y a-t-il quelque chose là-dedans? Y a-t-il quelque chose en profondeur, là? Est-ce que, parce que ça, on excite les sens des gens, puis des jeunes, etc. On les exploite, entre guillemets. Puis le jeune qui est pas bien averti, pas bien encadré, pas bien éduqué, ben, il va embarquer là-dedans, puis il en sortira pas. Là, je dis qu'il y a une grande responsabilité des enseignants, parce que le rôle de l'enseignant, c'est plus ce que c'était avant. Avant, t'avais des ignorants devant toi, puis t'avais un prof qui connaissait tout, puis qui transmettait ses connaissances. C'est plus ça aujourd'hui. Les connaissances sont disponibles, sont là, partout, sur Internet, instantanément. Alors, le prof, son rôle est changé. Il devient un conseiller, il devient un motivateur, un orienteur, ainsi de suite. Puis les parents ont un rôle à jouer aussi. Eux autres aussi ont un pouvoir d'influence énorme sur les enfants, donc ils ont besoin d'un peu des initiés à la vie. Hein? Dans le temps, c'était à leur expliquer que Père Noël, c'est pas vrai, là. Mais là, aujourd'hui, il y a des choses bien plus importantes à faire. Et ils ont cette responsabilité-là, et les enseignants aussi, et les personnes d'influence. Parce que là ça comprend les médias aussi, je pense. Ouais. Que...
Mais il y a toujours quand même une part de superficiel, ouais, dans ce qu'on va appeler le vedettariat. Ouais. Tu sais, le vedettariat,
ouais,
c'est...
Ah, ouais, ouais, ouais.
Parce que c'est des gens qui ont joué, ouais, dans un film, puis ouais, la belle ça, madame, ouais, le beau gosse...
Ouais, ouais. Mais c'était moins accessible qu'aujourd'hui, disons-le. Là. Tu sais, même t'es dans une salle de cours, n'importe quoi, tu peux être ailleurs, par Internet, etc. T'sais.
Dans les classes, ce qui est vraiment impressionnant, je l'ai remarqué à l'université, c'est que il s'est glissé en dedans quelques années, un écran sur lequel tu peux tout trouver...
Ouais. Ouais.
Entre le prof et l'élève.
Ouais, ouais, ouais.
Mais cet écran-là, c'est aussi une source de distraction, ouais, extraordinaire. Ouais. Là,
si c'est mal utilisé.
Ouais, oui.
Effectivement.
Mais d'enseigner dans ce contexte-là, ça doit être.
Ah non,
vous
c'est.
Si en Afrique,
c'est,
ouais, 45 élèves, ah, ouais, 45 paires de yeux.
Ah oui, oui, oui. Ah, oui.
Alors qu'à l'Université Laval. Oui. Et t'as plein de gens qui sont là, mais sont pas là.
Et en dehors du cours aussi, parce que moi, d'abord, j'étais là à temps plein là, pendant 3 semaines, donc je me suis dit, je vais les aider. Là. Mais le soir, dans le laboratoire, entre guillemets, là, où les gens étudient, puis ont leur ordinateur, etc., ben moi, j'étais là avec les autres profs, puis on aidait les jeunes, parce qu'ils voulaient être aidés aussi. Puis ils n'étaient pas sur Internet. Là. Les autres, ils avaient une occasion unique. Là. Ils étaient invités là, de septembre à juin, puis à toutes les 3 semaines, il y avait 3 profs étrangers qui venaient. Ça s'appelle AIMS, African Institute for Mathematical Science.
Okay.
C'est quand même important. C'est 1,2 milliard maintenant, la population d'Afrique. Puis, il y a un grand scientifique, là, Neil Turok, là, qui a dit, là, on n'arrivera jamais à envoyer nos bons étudiants ailleurs sur la planète. On va faire venir les profs chez nous.
Ouais.
Puis, on 5 campus comme ça en Afrique. Là.
C'est quoi le plus fun quand on est enseignant? Puis qu'on a fait le parcours que vous avez eu, là.
Ah ouais.
C'est quoi le plus fun?
Ah, le plus fun, c'est de voir l'étincelle dans les yeux des étudiants, tu sais. Quand ils ont compris quelque chose ou qu'ils sont motivés par quelque chose, par un problème, disons, en mathématiques, là, ils sont motivés à résoudre le problème, puis à en vouloir en avoir un autre, ça, c'est motivant. Ça, c'est gratifiant pour le prof qui enseigne. Mais avoir des étudiants qui sont blasés devant soi, c'est pas sa majorité, là, mais ça arrive, puis ça déteint aussi sur le reste du groupe. Ça, c'est moins le fun.
Mais vous avez fait quoi dans ce temps-là? Quand vous aviez des mauvais groupes, là, on les nommera pas.
Ouais.
Mais,
ah, on essaye de
Paul prendre... Paul Savoie, tous les noms que vous m'avez dit tantôt pendant la pause. Non, mais sérieux, un groupe de cancres, là, ouais, ça doit arriver dans une carrière.
Ah, ça arrive. Il faut essayer de les motiver. Il faut vraiment ou les prendre un à un.
Non, mais comment vous motivez?
Ah, comment moi, je me motive? Oui. J'essaye. Je me motive par ceux qui sont le plus intéressés.
Okay.
C'est ça, c'est l'énergie vient de là. Hein? Hein, je sais pas si vous avez déjà. Quand vous parlez devant un public, là, on cible des gens qui sont là, puis on cible des visages qui. C'est ça qui nous motive.
Ben oui, mais qu'est-ce que vous faites des visages qui regardent ailleurs?
Ah, là, j'essaie. Je me dis, si j'étais encore un peu plus pertinent, un peu plus, je donne des exemples plus concrets, je vais réussir à en motiver d'autres. Je me fais croire ça, en tout cas. Puis je pense que je réussis en partie, mais c'est pas avec tout le monde.
Mais est-ce que c'est plus difficile d'intéresser les gens aux mathématiques qu'à d'autres matières? Parce que j'aurais compris, si je fais de la radio aujourd'hui, c'était pas parce que j'étais super hot en maths.
Je suis pas mal dans ce club-là.
J'étais meilleur en expression orale qu'en français.
Ça. Ouais. C'est divers comme une.
Les maths, il y a du concret, mais il y a aussi l'abstrait. Là. C'est pas toujours simple de réussir à aller chercher.
Ouais.
Les...
Il y a l'avantage qu'en mathématiques, on peut amener à peu près n'importe qui à résoudre un problème de son niveau, disons. C'est sûr que si je dis...
Ouais, mettons-moi, tu dis, Georges a trois pommes, il en mange deux, il en reste une.
Mais, là, c'est un peu, ouais, mais un peu plus motivant, ou qu'il y a un enjeu un peu, là, qui est dans la vie de tous les jours, là. Si on encadre bien le jeune, puis là, c'est important d'avoir un one-on-one, là. C'est ça qui est malheureux dans certaines écoles où il y a des grands groupes, là, il faut que les jeunes puissent progresser à leur rythme. Là, je parle beaucoup en mathématiques, là. Il faut chacun un rythme de progression. C'est pas parce que t'es un génie que tu vas avoir un rythme de progression rapide aussi. Là. Faut ça clair.
J'ai toujours su que j'étais un génie, monsieur, quand même.
Mais mal compris, peut-être.
T'as pas assez progressé.
Ouais, c'est ça. Ou mal enseigné aussi. Alors, non, c'est important. Je pense que c'est important d'amener chaque jeune à progresser à son propre rythme, probablement avec des interventions individuelles pour que ça fonctionne vraiment. Puis là, le jeune qui découvre, qui réussit à résoudre un problème par lui-même, là, c'est fantastique, ça peut changer sa vie, là. D'abord, ça va lui donner confiance en lui-même, qu'il n'avait pas peut-être dans d'autres domaines aussi, là, de domaines de la vie en général. Mais grâce aux mathématiques, il va gagner confiance en lui, puis réussir en mathématiques, puis réussir ailleurs.
Là, je vous pose la question d'un ado. À quoi ça sert, les mathématiques?
Ça sert de plus en plus, là. Vous ne pouvez pas fonctionner au quotidien maintenant sans être un petit peu faible, avoir des connaissances de base un petit peu en mathématiques. Puis c'est malheureux parce qu'il y a du rattrapage à faire. Moi, je cite parfois une étude là, de canadienne qui disait, là c'était en 2011, mais c'était mis à jour en 2016, puis ça n'avait pas beaucoup changé malheureusement, que 55% des adultes n'ont pas les connaissances de base en mathématiques pour fonctionner au quotidien, pas dans leur travail, au quotidien.
Aïe, aïe.
Ça veut dire, c'est pas grave de faire un budget.
Ouais.
Tu sais, une chance sur 14 millions à la loterie, je vais jouer pareil, là, je vais peut-être gagner, j'ai peut-être une chance sur deux. Non, mais ça marche pas de même. Là.
Ouais.
Ils sont pas capables de lire un graphique.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on parle des analphabètes, des gens qui savent pas écrire,
Peu de ça. Des analphabètes numériques.
Oui,
c'est
okay.
Ça. Il y en a effectivement beaucoup. Puis c'est un petit peu la faute de ceux qu'ils ont encadrés en bas âge, c'est-à-dire les parents, les enseignants qui sont pas occupés, qui sont occupés du groupe, mais pas des individus. Parce que c'est facile de se familiariser avec les nombres, les grandeurs, les mathématiques. On l'a inné en soi quand on est tout jeune. C'est pour ça que les jeunes, là, à la maternelle, au primaire, on leur parle de mathématiques, ils sont tout excités. Ils sont capables. Rébarbatif du tout, les nombres, les formes, tout ça. On les perd en quelque part au secondaire. Quand on arrive avec des grands groupes, puis là, ils sont effectivement avec l'Internet, puis tout là, les distractions extrêmes, on les perd malheureusement.
Qu'est-ce que vous dites à un parent qui nous écoute, qui a des ados, puis ça va mal à l'école? Où est-ce qu'un parent peut intervenir sans être intrusif?
Ouais, le rôle du parent, c'est de montrer un intérêt. Montrer un intérêt pour les succès scolaires ou pour juste ce qui se passe à l'école. Tu sais, demander à l'enfant, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui à l'école? Pas que ça soit inquisitoire, évidemment. Là. Si t'es là, tu dis, ouais, là, je vais tout savoir, puis là.
Non.
Mais s'intéresser. Et c'est démontré scientifiquement que les parents qui s'intéressent au succès de leurs enfants augmentent leur chance de succès de 40%.
De 40%?
C'est énorme, là. Tu sais? C'est énorme. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est documenté.
Intérêt, genre.
Intérêt.
De voir qu'est-ce qui arrive.
Ouais, qu'est-ce qui arrive.
Une écoute, là. Même pas besoin d'intervenir.
Petit jeune qui dit, l'école, je fais ça aujourd'hui. Oui, t'as fait ça. OK. Puis là, oui. Puis raconte-moi-en. Montrer un intérêt.
Okay.
Que chacun a sa façon de montrer un intérêt. Mais tu dire, parle-moi pas de ton école, là. Puis moi, j'étais pas bon en mathématiques. Puis ainsi de suite, les affaires de même, là. C'est pas.
Justement, par exemple, moi en mathématiques, j'étais pas bonne en mathématiques, je peux le dire, puis il y a bien des notions qui sont pas restées dans ma mémoire. Mais si j'étais seule à élever mon enfant, j'aurais des difficultés, y aurait une lacune. C'est sûr que ça y prendrait une ressource à l'école. Mon chum, lui, se rappelle de tout ça, fait qu'il est en mesure de l'aider, mais je me mets à la place de parents soit monoparental ou si les deux ont pas eu la bosse des maths, je dirais ça comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec un jeune?
Moi, je veux répondre.
Je vais répondre après.
Je vais te répondre pour une raison, puis je suis hâte de voir si M. de Comnec va dire comme moi. Je vais te répondre parce que moi, je suis médiateur, OK, dans la vie. Là, j'ai une formation de médiateur. Ce que tu viens de faire, c'est que tu n'as pas écouté ce que M. de Comnec a dit, parce que, comme les gens qui sont souvent médiateurs, cherchent à amener des solutions quand ce n'est pas ça, la démarche. T'as pas à être bonne en maths pour t'intéresser à ce que ton enfant fait en maths.
Ah, ça, c'est sûr, je m'intéresse, mais s'il y a un problème,
c'est pas à
je suis
toi
pas
le résoudre.
Capable de l'aider.
Non, effectivement.
C'est ça, je veux dire.
Faut jamais résoudre un problème pour son enfant.
C'est ça.
Faut qu'il résolve lui-même. Mais ce que vous pouvez faire, par contre, c'est l'accompagner. Parce que souvent, il va dire, je comprends pas le problème. L'as-tu lu, le problème? Là, pas besoin d'être mathématicien. Là. L'as-tu lu? OK, je vais le lire. Puis là, explique-moi-le. Vous comprenez rien en mathématiques, c'est pas grave. Vous dites, explique-moi-le. Ah là, expliquer, c'est la meilleure façon d'apprendre. Hein? Mm-hmm. Tu sais, écoutez, c'est 10% de l'histoire qu'on comprend. Puis quand tu as dit, va falloir que tu l'expliques tantôt. Oh boy! Va falloir. Là, c'est 90% d'apprentissage qui est fait. Là. Okay. Expliquer. Il faut que tu lui demandes. Puis là, il y a toutes sortes de stratégies. Vas-y, commence là, puis je vais aller te rejoindre. Vous avez rien à faire, là. Juste montrer un intérêt. Puis le questionner. Puis si jamais vous avez la réponse, faut pas y donner. En aucune façon. Faut qu'il le trouve par lui-même. Vous pouvez donner des tuyaux si vous avez quelques tuyaux en mathématiques. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Dis comment continue, puis explique-moi-le, puis.
C'est bon.
C'est des stratégies.
Monsieur Deconinck, on va faire une courte pause. Ouais. Au retour, on va parler de chiffres. On va parler qu'il y a une paire de souliers qui s'est vendue 850 000 piastres. C'est qu'on va voir qu'est-ce que vous pensez de ça. Vous connaissez ça, les chiffres. On est avec Jean-Marie Deconinck, mathématicien et inventeur, fondateur, plus qu'inventeur, d'Opération Nez Rouge. Et là, juste avant qu'on parte à la pause, je vous ai dit qu'il y a un dénommé Miles Nadal qui a acheté 99 % de toute une collection d'anciens espadrilles Nike Air Jordan 5 dans un encan de Sotheby's, la grosse affaire. Il a payé 850 000 piastres dans le fond pour des espadrilles parce qu'il pense qu'il va pouvoir les revendre plus cher, je suppose. Et moi, ça me donne le goût de poser à votre côté mathématicien, qu'est-ce que vous trouvez aujourd'hui qui est trop cher?
Qui est trop cher.
On a parlé du céleri nous autres tantôt, là. Mais non, ça peut flatter ouais. Plus haut que ça.
Non, c'est vrai que l'alimentation s'est rendue chère, effectivement. Les épiceries, waouh. Ça a augmenté quoi de 17 % là, si on compare le juin à juin. Là, j'ai lu ça sur un fil de nouvelles. Mm-hmm. En tout cas, peu importe. Ce qui est trop cher, il y a des choses qui sont pas chères. L'avion, les billets d'avion, c'est quand même pas cher par rapport à l'époque. Là.
Ça a baissé quasiment.
En argent ouais. Réel, ça a baissé.
L'électronique, avez-vous déjà remarqué que l'électronique baisse?
Je comprends.
Moi, des fois, je regarde. Là, les annonces, mettons, une télé. T'sais. La première télé que j'ai achetée, 52 pouces, m'a coûté 1200 piastres. Je pense que c'était une plasma qui paye 120 livres. Ouais. Là. C'est l'enfer.
Moi, j'avais acheté.
J'ai fait un job. Ouais. Mais aujourd'hui, 55 pouces, là, chez Tanguay ou autre.
600, moi.
Oh, ouais.
Même grosseur.
Non, mais c'est rendu moitié plus.
600 avec les taxes.
Hey, moi, j'avais acheté un ordinateur IBM en 1984. C'était 5000 $
5000.
Là, aujourd'hui, je pourrais avoir un ordinateur facilement à 500 $ qui serait à peu près, en termes mathématiques, 1 million de fois plus puissant que celui que j'avais acheté.
Pour vrai? 1 million?
Ah oui. Voyons. Comme il faut. Ah oui. Ah oui.
Moi, je ne l'obstinerais pas sur les chiffres.
Non. J'avoue que...
Qu'est-ce qui est rendu cher? Hey, Opération Nez Rouge, c'est rendu cher.
Ça, c'est cher.
Non, ça, c'est
combien
les
gens laissent de pourboire, justement, parlant de ce qui est cher ou pas cher?
Quand on a commencé en 84, c'est à peu près 10 $ la moyenne. Là, c'est 20 à peu près. Là. Mmh. 20
quand même.
Oui, c'est quand même intéressant. Ce qui est cher, je trouve, c'est l'immobilier.
Et bien d'accord.
Je pense que c'est... D'une certaine façon, à Québec, on est chanceux un petit peu. C'est cher, mais pas si cher que ça. Montréal, c'est déjà beaucoup plus cher. Puis moi, j'ai beaucoup de collègues à Vancouver, des enseignants. Ça n'a aucun bon sens.
Mais comment ils font?
La maison moyenne, c'est 1 million de dollars.
Mais comment ils font?
Mais ça pose un problème pour les universités qui veulent recruter des bons profs, là. Parce que là, ils donnent des salaires. Les profs commencent, bon, 90, 100 000, 110 000,
c'est
peut-être.
C'est
pas assez pour... Alors, ce qu'ils ont commencé à faire, les universités, c'est de donner, prêter un 20 % de down payment pour sa maison.
Ils financent le cash down.
Oui, ils financent le cash down maison pour encourager. Ben, c'est ridicule, là. Ça vaut pas ça, mais si
ça te vend 1 million puis que tu gagnes 120 000.
Ouais, oui.
Non, mais quelqu'un paye le cajon, il faut toujours bien le rembourser. Comment ça marche?
Non, ils vont pas acheter une maison de 1 million, là, c'est clair. Ils vont acheter quelque chose en banlieue à 500-600 000. Mmh. Ils vont s'endetter. Ils vont s'endetter, mais là, s'ils ont une job garantie. Bon, c'est sûr, c'est un problème.
Ou ils vont rester chez eux.
Ouais.
Justement.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ben, parce que c'est à cause des problèmes de recrutement, c'est ça. Il y en a qui vont dire, on ira pas
aller travailler.
Je viendrai pas.
On ira pas à l'université.
Les frais de garde sont élevés aussi pour les enfants, semble-t-il.
Ah oui, c'est ça. Ça, c'est UBC puis Simon Fraser, là, dont je vous parle. Ouais. Ces deux universités-là, là, dans l'Ouest canadien.
Alex fait dire que les hot dogs chez Costco sont restés pas chers, en tout cas.
Oui, exact. Mais c'est vrai que l'immobilier n'a pas suivi les salaires.
Non.
Ça a monté en fou furieux.
De façon exponentielle.
Oui, exactement. Quand vous étiez professeur, vous habitiez dans quel coin?
J'ai habité longtemps sur la rue Sainte-Geneviève.
Ah bon, dans le vieux?
Mes parents dans le vieux, tout près du consulat américain. On allait jouer dans le parc, tout ça. Après ça, on a déménagé sur la rue Belmont. rue Belmont, qui a changé de nom maintenant, qui est juste à côté. C'est à côté, parallèle à Marguerite Bourgeois.
OK.
Perpendiculaire à René Lévesque. Entre René Lévesque puis la Grande Allée. Et après ça, j'ai acheté une maison au lac Beauport. Je suis un des... je participe à l'étalement urbain, malheureusement. Mais c'est il y a 40 ans, là.
Puis vous êtes encore même place.
Là, je suis encore là, je suis bien heureux. Ben, je suis heureux parce que je peux faire du vélo, nager, etc. Là. Mais je rends compte que...
Ça prend du temps.
C'est un handicap, ouais. Certaine façon.
Ah oui, là. Oui, oui, vous trouvez?
Ben, c'est quand même 30 km de Québec, là. Quand ouais. Il faut venir à l'université tous les jours, là. Non, c'est
comme enfant du vieux Québec, vous réagissez comment quand on voit qu'il y a de moins en moins de résidents ou de gens qui résident dans le vieux Québec? Là, ouais. C'est pratiquement devenu un quartier touristique, en fait.
Oui, parce que l'immobilier était inaccessible. Là.
Les services, il n'y a pas de services. Ouais.
Écoutez, moi, la maison Sainte-Geneviève, mon père avait payé ça 15 000 $. Là, on parle des années 35, là, 36, je ne sais pas exactement la date. Là. Puis quand il est mort, ma mère a vendu la maison. Là, on parle de 1966. Elle est vendue pour 38 000 $.
Okay? Ça n'avait pas...
Pas progressé tant que ça. Ouais. Peut-être que, bon, on avait eu des meilleurs conseillers. Elle était un peu plus chère, mais pas énorme.
Ouais, ouais.
Puis elle s'est vendue il y a 2-3 ans, là. C'était la maison la plus chère au Québec. Là, je pense que c'est 3 millions, quelque chose comme ça. Mais évidemment, il y a eu des Américains qui sont venus là. Ils ont tout rénové. C'est parce que c'était immense. Okay. C'était 32 pièces.
Hein?
Ouais, dans
comment
le vieux
32
Québec.
Pièces? 32 dans le vieux
pièces.
Québec?
Oui, oui.
C'est au coin de quelle rue? Au coin de quelle rue?
Ben, au coin de Desgrisons.
Okay.
Pas loin de Desgrisons. Puis,
toi, ouais.
Et c'est évidemment... il fallait la rénover et tout là, pour que ça vaille tant que ça, là. Mais c'est pour dire que l'immobilier... Oh,
non, mais ça a passé flambé. Quand même de 34 à 3 millions
en 50 ans à peu près. Là. Ouais. C'est énorme.
C'était quoi la vie, être jeune dans le Vieux-Québec?
Ah, c'était fantastique. À ce temps-là, on n'avait pas de télé. Hein? On n'avait pas de télé à la maison. Mm. Et on jouait dans le parc des gouverneurs.
On a parlé tantôt, c'est drôle.
Ah, c'est génial. Moi, j'ai fait du bicycle. On jouait au ballon prisonnier. On passait 2-3 heures par soir là, de l'activité physique, après avoir fait nos devoirs.
Oui, oui, bien sûr. Cas.
Mais c'était fantastique comme expérience, comme souvenir. Là. Beaucoup d'amis qui sont restés, et ainsi de suite. Là. Mais c'était agréable. On prenait l'autobus une fois par semaine pour aller chez des amis sur la Grande Allée quelque part, là, chez les Guimonts. Puis on écoutait, pour aller écouter, le mercredi soir, c'était les Ploufs.
Ben oui. Ah, oui. Ben, qui ont tourné sa terrasse aussi, en plus. Là.
Ah oui?
Le film, ben oui.
Ah, okay. Okay. Le film, le film. Donc, moi, c'était l'émission.
Série, ouais, ouais.
C'est la série. On prenait l'autobus pour aller écouter ça.
Parce qu'il n'y avait pas de TV chez vous.
On n'avait pas de TV. Mon père voulait pas de TV.
Okay.
Ça commençait la télévision.
C'était un précurseur, ben, il avait raison.
Il trouvait que ça serait une source de distraction un peu inutile. Là. Puis surtout, le niveau qu'il y avait, là, il n'y avait quand même pas de grands documentaires. Puis il n'y avait pas tant de nouvelles que ça. Là. C'était des émissions. Hein. Puis la lutte.
Tabarouette, Lord Joyeux. Je vois pourquoi vous avez réussi.
On allait écouter les ploufs puis la lutte. Je ne sais pas dans quel ordre c'était. Là.
Non, là, vous avez un grand
Mon souvenir de la lutte, oui, c'était le fun, c'est les commerciaux. Là. Il y avait un peu d'animation.
Les commerciaux.
Ouais, des annonces, même les annonces de cigarettes, puis tout, là, c'était un petit peu animé.
Ah, oh, ouais. Alors, OK, un peu live, comme on peut faire ici des fois.
Ah, c'est live, ces affaires-là.
Ah, c'était tout en direct.
Déguster une bonne Dumouriez.
Ouais,
le docteur Untel.
On trouvait ça le fun. On fumait pas, là, mais on trouvait ça le fun de voir les annonces.
Ouais.
Parce que la lutte, ben là, à un moment donné, là, on savait que c'était truqué. Ouais. Oh, oui.
Comment truqué, là? Non, même. Mais votre père, c'est Charles de Coninck, donc du pavillon Charles de Coninck à l'Université Laval, c'était quoi sa profession précisément? Il était prof, je suppose?
Il était prof. Sa spécialité, c'est la philosophie de la nature.
OK.
Lui, il était pour la pilule anticonceptionnelle.
Ah, ouais. avant là.
C'est d'ailleurs ce qui l'a tué.
Pour vrai?
Ben parce que quand il est allé, il était cardiaque, là. Il a fait sa première crise cardiaque à 46 ans. Puis donc là, il y avait 58 ans. Au mois de février 1965, il devait aller à Rome pour rencontrer les cardinaux, puis le pape pour convaincre les.
Ah, ouais.
Puis
oui.
Il avait déjà. Il connaissait le pape, parce que le pape, c'était Paul VI, mais c'était le secrétaire de Jean XXIII avant. Donc, il connaissait tout le monde. Il connaissait très bien le pape. Et il avait réussi à convaincre la moitié des cardinaux que c'était une bonne affaire.
OK.
La pilule anticonceptionnelle, que c'était naturel.
OK.
Et il devait rencontrer le pape le lundi matin, puis il avait écrit à ma mère, qu'elle a reçu la lettre après sa mort, que ce ne serait qu'une formalité. Et parce que c'était sûr que ça allait marcher, oui. L'argument, tout le monde, il y avait plus, etc. Puis il est mort, puis... mais quand il est parti pour Rome, le médecin, il avait notre médecin de famille, il avait dit, si vous partez, je ne suis pas sûr que vous allez revenir. Ah, ben, ouais. Il n'y avait pas la santé physique pour faire ça. Là. 15 heures d'avion, je ne sais pas comment ça prenait de temps. Là. Ouais. Et c'est ça, il est mort à Rome. Donc, c'est ça qui l'a tué. Bon, en tout cas, c'était une de ses convictions, la plus anticonceptionnelle. Puis ça n'a jamais été accepté par l'équipe catholique, finalement, 50 ans plus tard. Bon, en tout cas, alors, c'était ça, c'était un philosophe de la nature.
Il y a un auditeur qui nous dit que la maison de vos parents a hébergé le petit prince de Saint-Exupéry. C'est quoi cette
histoire? Pas le petit prince. Antoine de Saint-Exupéry. Okay. Il y a une plaque, d'ailleurs, sur la porte, vous allez voir, sur la maison, si vous passez là, 25 janvier, il y a une plaque qui dit... ici, demeuré Saint-Exupéry, dans l'année, je ne sais pas quoi. Là. C'était, ben, il est mort en 42. Là. Donc, je pense que c'était à 41, 1940 ou 1941. Okay. Alors, c'est ça. Donc,
il avait choisi son spot pour venir à Québec. Hein?
Non, c'est parce que mon père le connaissait, puis c'est ça. Alors, Saint-Exupéry,
ça se place bien,
venait discuter de philosophie avec mon père.
Ça se place bien au souper. Ça. Oh, je me souviens, papa et Saint-Exupéry.
Non, mais, moi, je m'en souviens pas, je n'étais pas né.
Ouais, c'est ça.
Non, mais votre père, il a connu Saint-Exupéry et le pape personnellement.
Ah oui, oui.
Mais qu'est-ce qui fait qu'il a réussi à avoir cette envergure de contact-là, puis c'est un peu hallucinant. Là.
Bon, il faisait des conférences un peu partout à travers le monde. Là. Il a publié beaucoup de livres là, de philosophie, puis il faisait des conférences partout. C'était le seul conseiller laïque du pape.
Pour
à
vrai.
L'époque. Mais tous les conseillers, c'était des curés. Là,
ben
là,
oui,
des
ben oui.
Puis il y en avait un qui était... Je sais parce que, en tout cas, quand mon père est mort, on a reçu un télégramme du pape, là, qui le remerciait pour ce qu'il avait fait, puis soulignant le fait que c'était son seul conseiller laïque.
Ouais. Wow! Puis c'était comment d'être le fils de quelqu'un qui avait autant d'envergure?
Bon, à l'époque, nous, on s'amusait, là.
Ouais, ouais.
On avait du fun.
Non, mais c'était quelqu'un qui était, par le fait même, comme un peu, on pourrait le penser, dans le stéréotype, très exigeant, qui avait des
méthodes. Il était exigeant, mais aussi très reconnaissant, là, tu sais, puis très motivant. Tu sais, il nous motivait à réussir, tu sais.
OK.
À travailler intellectuellement puis à faire du sport aussi pour se garder en santé. Oui. C'est bien important. Puis moi, je me souviens, j'allais toujours... Moi, je nageais au petit séminaire de Québec, là. Puis j'allais m'entraîner le matin, tout seul d'ailleurs. Je faisais un mile, 1,6 km. Puis tous les matins, je descendais, puis il m'entendait descendre puis partir pour aller nager. Puis un matin, je suis pas allé, puis il m'en parlait jamais. Puis un matin, je suis pas allé, je sais pas, il me disait pas d'y aller, je suis pas allé. Le soir, il me dit, vous n'êtes pas allé nager?
Pourquoi vous?
Ben oui, vous, un citoyen à l'époque. Hein? Ah oui. Et on vous voyait nos parents. Nos parents nous voyaient. Ben, c'était la tradition flamande.
Ah ouais. Ouais.
Et moi, ma mère, qui est décédée seulement en 2008, à 95 ans, elle a vécu longtemps, à la fin, elle me vous voyait, puis je la vous voyais. C'est spécial, hein?
Ouais.
En tout cas, ça entraîne le respect. Au moins ça.
Non, non, ça, il n'y a pas de doute.
Mais c'était une tradition.
Non, mais c'est parce qu'on est habitué, mes parents vous voyaient. Ouais. Okay. Ses parents, mais ouais. Le vice-versa n'était pas vrai. Là,
non, ouais. Mais si je voyais quelqu'un, vous voyez son père ou sa mère, je me dis, qu'est-ce qu'il fait là? Non, là
ouais.
Ou l'inverse, rien, non, c'est ridicule. Mais moi, je le faisais, tu sais, naturellement.
C'est drôle.
Ouais. C'est drôle, hein?
Ouais, ouais.
Mais, en tout cas, on se respectait.
Bref, il y avait l'anecdote là, de se poser aller nager, puis pas aller nager, je ne vous ai pas fini.
Oui, ouais, ben c'est ça, il m'a fait la remarque que je n'étais pas allé nager. Ça voulait dire qu'il attachait beaucoup d'importance à ça.
OK.
Puis ça, il m'a fait ce constat-là. Je dis, oui, il ne faut plus que je manque d'entraînement. Là, faut pas que...
Il sait, là.
Ouais, il sait, là. Puis, c'est pas, il m'a fait ça de façon punitive, là, mais il avait fait la remarque,
ouais.
Ça avait été bien pris.
Là, vous êtes combien de frères et sœurs, si c'est le cas?
11 enfants. Là.
Quoi?
7 garçons, 4 filles, deux gars décédés, dont on est encore 9.
C'est pour ça les 32 pièces dans la
maison. Ah oui! Hey, c'était pas aussi ben oui. Tout le monde qui venait. On avait de la visite tout le temps. Les enfants, là, on pouvait amener nos amis à la maison. Ils restaient pour manger, etc. C'est un va-et-vient incroyable. Puis c'était pareil pour mon père. Il y avait tous les soirs, il y avait des invités, là, Monseigneur Parent, le pavillon Parent, Monseigneur Dionne, c'était un autre. Adrien Pouliot, le pavillon Pouliot.
Monsieur de Coninck invitait tous les pavillons de l'université.
J'ai l'impression que c'était ça. Monseigneur Vachon.
Pour vrai?
Ouais,
alors, mais c'est tout des vrais noms de. C'est tout du monde qui ont eu. Un pavillon nommé alors.
Non, ben, t'as peu, là.
Vachon,
Pouliot, oui. Parent, oui, Monseigneur Parent, oui. Monsieur Parent. Oui, oui, c'était quelqu'un, Monsieur Parent.
Monsieur Laval qui a donné son nom à l'université.
Oui, oui, c'est ça.
Monsieur Parent, j'ai été son chauffeur pendant un an.
Ah oui?
OK.
Ça, c'est l'année, je me souviens pas exactement, là, ben, je pourrais le retrouver. Dans les années 68, j'étais à l'université, j'étais au bac. Puis, il y a un prof qui s'en allait en année sabbatique, docteur Angèle en chimie. Puis, il y avait une Chrysler, une grosse Chrysler, 300, je sais pas quoi. Puis, il avait dit à Monseigneur Parent, ben, si vous voulez prendre ma voiture pendant que je suis en année sabbatique, Monseigneur Parent dit, mais je conduis pas, moi, là, là. Puis, là, il m'avait demandé pour conduire sa voiture, la force de la voiture. Hey, le deal extraordinaire, là. J'avais la voiture toute la journée.
Ah, ouais.
J'étais pas payé, mais tu sais, j'avais.
Ouais, ouais.
Lui, il payait le gaz, tout.
Ouais.
J'avais la voiture toute la journée. Tout ce que je faisais, j'allais chercher tous les matins. Au petit séminaire de Québec, c'est là qu'il restait, oui. À 8h moins quart le matin.
Okay.
C'était exactement 8h moins
quart.
Comme
un train. Comme
un train. J'arrivais là, je le prenais, je l'amenais à l'Université Laval, au pavillon de Conin, qui s'appelait le pavillon des sciences humaines à l'époque. Il était vice-recteur. Et le soir, je retournais le chercher quand il m'appelait. Mais je savais qu'il allait m'appeler vers 7h30, 8h. Là, j'allais chercher au pavillion de Conin.
Vous appelez sur votre cellulaire, là?
Non, non, non. Ouais, ouais. Il m'appelait à la maison, je savais qu'il fallait que je sois là. Puis là, il m'appelait. Puis là, je le ramenais au petit séminaire de Québec en arrêtant dans les maisons funéraires.
Ah, ouais.
Tous les soirs, au moins, il connaissait tout le monde.
Tabard, ouais.
Alors, puis il sortait quand il ça restait 20 minutes. Des fois, c'était 2 ou 3. Et quand il revenait dans la voiture, il s'assoyait en avant, là, je voyais qu'il des fois, il y avait une petite larme. Là,
ouais, ouais, il était ému,
il était ça. Ému, là, ah, ouais. Pis, mais il connaissait tout le monde. C'est un homme extraordinaire.
Monsieur Jean-Marie de Conin, c'est maintenant tout le temps qu'on okay. avait. Mais on en a pris assez, je trouvais ça bien, ouais. Parce qu'on avait du temps, puis c'était fascinant de voir un peu une partie de votre parcours, puis tout ça. Franchement, c'était vraiment, vraiment, je suis bien content que vous soyez venu.
Merci, c'était très agréable.
Bonne continuité.
Très agréable.
Et je vous souhaite un bel été aussi okay. À venir.
Merci, Marc, William.
Là, c'est l'heure de se border. Bonne nuit, Julie.
Bonne nuit, Marc.
Bonne nuit, Paul.
Yes.
Bonne nuit, Will Dolly.
Bonne nuit.
Aubert de la Lune. Bonne nuit, Alex.